Je veux la brise, console et ton assise, bloque la corde qui frise suite à ton analyse.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va consacrer notre émission, encore une fois, aux Gilets jaunes, en particulier aux Gilets jaunes de Charleville. Trois d'entre eux sont parmi nous et on va pouvoir peut-être commencer par leur histoire, puisque ouais. C'est une histoire qui, au niveau de la région, c'est quand même, c'est là que certainement ça a été le plus dynamique,
dirons-nous. Oui, c'est là où ça a été le plus dynamique. Donc, on verra avec Yannick, Dabia et Fabien. Qui ont vécu ça depuis le début, depuis novembre dernier, à Charleville, les différentes étapes de la mobilisation, les différentes confrontations avec les édiles locales, municipales et avec la préfecture. Alors, c'est important parce qu'il y a une grande densité de mobilisation. Il y a eu beaucoup de mobilisation, mais je crois qu'on va commencer tout de suite par vous laisser la parole et pour parler de en décembre, enfin dès le mois de décembre, non, je crois, dès le mois de novembre, hein, dès le mois de novembre, vous mettiez en place, vous étiez installé, si je me rappelle bien, sur le pont de la préfecture de Charleville. Et apparemment, ça faisait tâche.
C'est bien ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment réagi la préfecture? Le maire de Charleville qui a dû vous trouver particulièrement insupportable.
Oui, dans un premier lieu, c'est insupportable au niveau visuel. Donc ça faisait un peu tâche, comme vous dites. Et donc on était installé sur le petit pont bleu entre la préfecture et le tribunal.
Approche ton micro, voilà. C'est mieux.
Et du coup, ça leur convenait pas. Et la veille du 1er décembre, en gros, ils sont arrivés, force de l'ordre, bien sûr, et de force, ils ont démonté l'abri de fortune qui abritait les victuailles, et de quoi nourrir les manifestants qui étaient sur place en nocturne, en journée.
Et alors, est-ce que tu peux me décrire, est-ce que vous pouvez me décrire comment réagissait la population locale à ce moment-là? Parce que, effectivement, si je dis ça faisait tâche, c'est que ça gênait les autorités, évidemment. Voilà. c'est que donc, il devait y avoir une multitude de véhicules qui passaient entre ces deux villes que sont Mézières et Charleville.
Énormément.
Et que les gens, ils étaient solidaires, j'imagine. Hein, j'imagine pas qu'ils
très
essayaient
solidaire.
De vous écraser toutes les secondes.
Pas du tout. Il y en avait même qui s'arrêtaient régulièrement, qui venaient au contact, nous demandaient qu'est-ce qui se passe, on leur expliquait. ce qui se passait, ce qui allait se passer, quoi. Et pourquoi on était dehors, en gros. Et du coup, ça faisait de plus en plus tâche. Et puis, la veille du 1er décembre, comme je vous dis, ils sont venus tout démonter de force. Et ça a créé le 1er décembre qu'on a connu à Charleville.
Alors, il y avait, vous décriviez tout à l'heure, quand on a préparé un peu l'émission, qu'il y avait une tension entre le maire de Charleville et la préfecture, et le préfet.
Une légère tension, oui, elle était palpable.
Ouais.
Elle était palpable, on le voyait bien. Donc, monsieur le maire, en voyant que le QG, l'abri de fortune a été démonté, que ça avait créé le 1er décembre, après le 1er décembre, il nous a proposé de nous installer des tonnelles de la ville pour nous créer un point de cohésion à proximité de la préfecture, en fait.
Mais un peu plus caché.
Mais un peu plus caché de la circulation, quoi.
Ouais, c'est-à-dire
juste à côté du... En fait, il y a une grande maison à proximité du barrage, collée au barrage, donc qui s'occupe du barrage même. Et en fait, la grande maison cachait le QG à l'arrivée des voitures. Donc il fallait que vous soyez devant le QG pour voir le QG, en gros.
Et... Vous parlez du 1er décembre, qui est une référence apparemment pour vous. Ça serait bien que vous nous décriviez un petit peu ce qui s'est passé ce 1er décembre.
Ah, le 1er décembre, c'est la première manifestation sur Charleville, en fait. Parce qu'avant, c'était des blocages sur les routes, blocage Poitéron, blocage Oinic, un peu partout dans les Ardennes, les frontières aussi, les centres commerciaux.
Aussi.
Et Rethel aussi, il y a eu des blocages. Donc, le 1er décembre, en fait, ça a été la première manifestation pour tout le monde. Et vu qu'il y avait eu des discordes la veille, il y a eu des rangées, des barricades de pneus qui ont été montées des deux côtés du tribunal, sur le pont, où il y a bien un peu la scène, quoi. Et bah, il y a un moment donné où ça s'est échauffé un peu et la barricade de pneus a pris feu. Donc ça a fait des belles flammes bien rouges, bien jaunes et beaucoup de fumée. Énormément de fumée, et les forces de l'ordre étaient dépassées par les événements ce jour-là. Donc c'est là que ça a créé, en fait, ça a commencé le matin, et l'après-midi, ça a créé le débordement dans tout Charleville, en fait. En gros, ça s'est passé comme ça. Il y avait des agriculteurs qui étaient avec nous. Moi-même, j'étais dans le godet d'un tracteur à 7 mètres de hauteur, toute l'après-midi, à filmer, à faire des lives, à montrer ce qui se passait sur Charleville. Donc oui, c'était un peu chaud, ouais. Très chaud même. Très chaud ce jour-là.
Oui, c'est une journée qui sans doute est dans toutes les mémoires, dans beaucoup
mémorable.
De mémoires.
C'est mémorable. C'est mémorable. Donc, et après cette journée-là, donc on a eu le QG, les deux tonnelles prêtées gracieusement par monsieur le maire, qui a fait un discours que j'ai toujours dans mon téléphone, que j'ai enregistré, il le savait très bien. Donc, il posait ses conditions, on a respecté les conditions, une paire de mois, et il arrivait à un moment donné où, c'est au mois d'avril, je crois.
C'est ça.
Au mois d'avril, marre de toutes ces confrontations avec les forces de l'ordre. Donc à chaque fois, automatiquement, si vous faites un blocage ou si vous faites une action, vous vous confrontez directement, moi j'appelle ça au bouclier du roi.
Ouais.
On peut l'appeler comme ça. Hein. Ouais. Et automatiquement, ça crée des conflits entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et il faut savoir que les manifestations n'ont jamais été déclarées sur Charleville-Mézières. On ne déclare rien.
Ouais.
Parce que je pars du principe où, quand on est mécontent, on ne va pas toquer à la porte de M. Macron pour lui dire « Monsieur Macron, je suis mécontent, puis-je me révolter et montrer mon mécontentement vis-à-vis de votre République
?»
Voilà. Donc, voilà.
Et alors, ce QG, ce fameux QG, c'était un lieu qui était gardé jour et nuit.
C'est ça.
Qui était occupé jour et nuit, qui était un lieu de convivialité où les gens se retrouvaient toute la journée, évidemment. Mais la nuit, il y avait des gens qui étaient là en permanence pour assurer une présence et sa sécurité, en quelque sorte.
C'était un roulement, en fait, qui était fait. Donc, on avait un tableau où on notait les noms, en fait, des personnes qui faisaient notamment les nuits. Voilà, c'était un roulement qui était fait.
Et donc, toi, tu as participé particulièrement...
Oui.
Je sais pas, le nombre de
87.
Jours. Ouais, 87 journées. Nuit. Ouais.
Jour et nuit, ouais.
Et qu'est-ce que...
Tu t'es confronté à quoi? À qui?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. énormément de choses. Alors beaucoup, bon, soit des badauds le soir qui étaient en état d'ébriété, qui venaient essayer, voilà, de
s'incruster.
Notamment une fois un monsieur avec une épée qui était ivre. Donc on était deux ou trois ce soir-là. Donc bon, on a dû appeler les forces de l'ordre, hein, forcément. Après beaucoup de descentes de la police, donc avec des fouilles, etc. Beaucoup de pression.
Et de répression.
Et de répression, surtout, voilà. Donc, voilà. C'était quand même assez, assez mouvementé. Ouais.
Il faut savoir aussi que le QG était là. En fait, ça a ouvert un énorme point de cohésion, en fait. Il y a beaucoup, toute la journée, mais quand fallait être là pour le voir. Parce que du matin au soir, même la nuit, toujours quelqu'un qui rentre, qui sort, toujours. Bonjour, ça crée des liens, ça,
des gens énormes actifs, liens. En fait, hein, chacun savait ce qu'il avait entre guillemets à faire. Enfin, il y avait la réception du bois, ranger le bois, couper le bois, aller chercher le bois. Enfin voilà, c'était vraiment préparer le bois pour faire les nuits, parce qu'on avait un poêle. Voilà, un poêle.
Au début, on avait fait
un brasero.
Un poêle de fortune avec un tonneau. C'est un poêle de fortune. Après, on a récupéré un vrai poêle en fonte pour aménager avec le confort. Bien
sûr, ouais. Et une multitude de gens qui amenaient de la nourriture
tout
aussi.
Tout à fait, voilà.
Des vivres.
Oui, ouais. Tout à fait.
Énormément de personnes.
Nous, Gilets jaunes, on en ramenait. D'autres, beaucoup de la population. On avait fait une cagnotte au sein des Gilets jaunes, donc pour en acheter également.
Tout ça, ouais.
Voilà, c'est ça, voilà, voilà.
En plus des commerçants, des citoyens aussi, qui apportaient leur soutien personnel au mouvement, qui n'étaient pas dans les manifestations, parce qu'on peut les comprendre. Il y en a, ils travaillent, il y en a, ils peuvent pas pour raison de santé. Donc, ils apportaient leur contribution comme ils le pouvaient. Il y avait un énorme soutien quand même.
Ouais. Il y a eu des manifestations qui ont été à cette époque-là, qui avaient lieu, à part le 1er décembre, il y en a eu d'autres. Tous les samedis,
il y avait une manifestation.
Parfois le matin, parfois ça commençait le matin, mais c'était toujours au départ, en fait, de la préfecture. En fait, on se donnait rendez-vous
au QG,
voilà, c'était le point de départ. Alors au début, c'était le matin, mais on n'arrivait pas trop
à générer du monde.
Générer du monde, donc après, c'était souvent à partir de 13h30, et avec un départ entre 13h30 et 14h. Mais toujours au départ de la préfecture, avec toujours un retour à la préfecture où on buvait un petit café avant de rentrer chez nous. Enfin voilà, c'était toujours.
Et comment ça se décidait, ces manifestations? Vous aviez des réunions?
Des moments de réunion?
Bon, c'était tous les jours en gros. Tous les jours, les réunions.
C'est ça, on avait des idées, voilà, on en parlait beaucoup entre nous, en fait.
C'est un gros point de cohésion, le QG, donc c'était toute la journée.
Toute la journée,
des idées véhiculées. Donc, le samedi, en fait, c'était tous les manifestants qui accordaient leur violon, qui disaient, voilà, on va manifester jusqu'à la place du Cadre, on fait le tour, on revient. Voilà, avec tes revendications, avec tout ce qui allait avec la manifestation. Quoi.
Au fur et à mesure, on essayait d'innover.
En aucun cas, nous ne cautionnons la violence. Ça, il faut le savoir.
Ouais.
Les autorités de Charleville le savent très bien. Donc, quand il y avait des débordements, c'était des éléments perturbateurs qui s'accolaient au mouvement, comme dans tous les mouvements populaires, citoyens, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Parce que même dans les manifestations de CGT, il y a des débordements.
Ouais.
Quand vous regardez bien.
Mais le pire, c'est pas eux. Hein. Le pire, c'est les agriculteurs. Hein. À Charleville, c'est bien connu. Les agriculteurs ont déjà semé la panique à la préfecture.
Oui. Hein.
Quand c'est pas les tonnes de fumier, de lisier, les grilles défoncées. Donc on peut leur faire confiance pour la violence.
Hein. On s'est retrouvé avec la préfecture, devant la préfecture, avec un tas de fumier énorme. Ils se demandaient d'où ça venait.
Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, là tu disais vous étiez retrouvé avec un tas de fumier, est-ce que vous avez eu des convergences avec certains mouvements sociaux à Charleville?
Le mouvement écolo.
Oui.
Ouais, d'accord.
On a beaucoup échangé avec eux. On a même un samedi, ils faisaient leur manifestation.
On s'est fusionné
avec la. Les deux manifestations ont fusionné et ont formé plus qu'une, qui a mené au début de la rocade de Charleville, ouais. Parce qu'il y avait une action à faire au niveau des écolos, c'est de planter un arbre à l'entrée de la rocade. Je ne sais plus c'était quoi, pourquoi ils avaient planté l'arbre. C'était un pommier, je crois.
C'est ça, c'était un pommier, juste à côté de nos croix.
Et ah oui, je vois bien. Oui, oui, voilà.
Il y avait eu une minute de silence en même temps, donc double action, une minute de silence pour les victimes du mouvement des Gilets jaunes. On peut, ouais. ça, on peut dire ouais. ça, hein, c'est les victimes cassées, du mouvement. Ouais. Hein, voilà.
Bien sûr.
Soit décédé de crise cardiaque ou autre, ça fait partie du mouvement bien des sûr, Gilets jaunes. C'est des victimes, c'est nos victimes, et il faut leur rendre hommage ouais. comme on l'a fait.
D'ailleurs, l'État fait tout pour masquer ça, en particulier la femme de 80 ans, je crois, à Marseille,
oui,
qui a quand même été tuée suite
oui.
au lancement d'une grenade.
D'une grenade, oui.
Lorsqu'elle fermait ses volets, oui.
Voilà.
Oui.
Mais non, sur Charleville, ça va au niveau de l'hommage à nos victimes qu'on a rendu. Les croix sont toujours présentes, ouais. à côté d'un massif de fleurs. Et ils ont même, la ville, donc M. Ravignon, hein, a même fait un... Donc au niveau du massif de fleurs, je ne sais pas si c'est ironique ou pas, une Marianne avec liberté, égalité, fraternité. En massif de fleurs, mais gros ouais. massif, hein, 5 mètres de diamètre, voire 6 mètres de diamètre.
Qui est visible depuis,
Depuis la rocade quand, vous arrivez, la quand ouais. vous arrivez en véhicule. Donc là, au niveau de ça, le maire est... Je ne sais pas, il...
On le prend comme on veut dire.
Il ouvre, voilà. Il ouvre,
voilà, voilà,
je pense qu'il ouvre.
Voilà,
zigzag entre,
je pense.
Un peu comme la Meuse.
Il surfe sur la hein. vague, en fait.
Et moi, j'avais une autre question, c'est... tout à l'heure... Tu as évoqué des blocages de frontières, enfin des actions oui. aux frontières. Dans la vallée de la Meuse, dont on connaît la situation, ici on en a parlé des centaines de fois mm-hmm. dans cette émission, est-ce qu'il y avait des gens qui venaient de la vallée, proprement dite, que ce soit de Nouzonville, de Revin, de Fumé, de Vireux,
oui,
ou voire de Givet ? Est-ce qu'il y avait
beaucoup.
Des liens avec ces
bien
différents
sûr.
Groupes
qui sont,
oui,
toujours
sont toujours
ouais.
dans le
mouvement.
Sont toujours
dans
le mouvement.
Notamment Bonny-sur-Meuse, Monthermé, Nouzonville, mm-hmm. Givet, Rethel.
Oui. Sedan.
Sedan aussi, beaucoup ouais. de personnes de Sedan.
Haute-Rivière.
Reims. Il y a Reims aussi qui vient.
Reims qui descend mm-hmm. régulièrement sur ouais. Charleville. Ah oui, non mais c'est, ouais. c'est vrai. Hein.
Et les gens de la vallée, les gens de la vallée de la Meuse, ils ont, par exemple, qu'est-ce qu'ils mettent en avant c'est des gens de quelle génération c'est des gens qui étaient dans quelle économie
qui étaient... c'est des gens qui travaillaient à l'usine.
Qui travaillaient voilà, à l'usine.
C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup 35-55 ouais. ans.
D'accord.
La
mais il y a beaucoup,
plus grosse tranche d'âge. Oui.
Dans le mouvement ardennais, beaucoup d'anciens.
Oui, oui.
Ouais. Il y a beaucoup de jeunes, mais beaucoup d'anciens qui sont vraiment remontés à bloc. Et
oui,
qui ont vécu aussi mai 68 aussi, il hein,
oui.
faut le rappeler.
Bah, même après oui. 68, c'est les luttes de Vireux, les
voilà.
luttes de Revin, mm-hmm. Les luttes de la Chière à Vireux,
voilà.
par exemple, qu'on connaît assez bien et qu'on a souvent décrites. Et les luttes de la soie, une des dernières, c'est les luttes de la soie.
De la soie, oui.
C'est ça.
On va peut-être faire une pause musicale.
Ma foi.
I'm
peut-être plus janvier, oui. Je pense.
Alors maintenant, bah, je crois qu'on va continuer un peu l'historique, puisqu'on n'a pas évoqué, les blessés qu'il y a eu, il y a eu des personnes qui ont été blessées à Charleville.
Dès le mois de décembre, apparemment.
Tout à fait, oui. Mais dès le 1er décembre.
Ouais. Il y a une personne qui a été éborgnée, c'est ça ?
Oui, oui, ça c'est oui. En mars.
C'est en mars.
En mars, oui, c'était en mars. Ouais.
Lors d'une manifestation pacifique, comme d'habitude, hein, on revenait de la place Ducal, je pense. On descendait vers l'avenue Jean Jaurès, donc en contournant le commissariat, bien sûr, pour ne pas attiser...
Les frictions.
Les frictions, voilà. Et au coin de l'avenue Jean Jaurès a éclaté une dispute entre citoyens lambda, en gros, ouais. D'une femme qui était à sa fenêtre et a insulté une autre dame dans la manifestation. Et vous voyez l'effet de masse qui fait qu'ils ont cru qu'ils insultaient un manifestant. Il y a eu des jets de projectiles du premier étage, les forces de l'ordre étaient présentes. Et malheureusement, concours de circonstances...
Il y en a un qui a tiré, ouais.
C'est ça.
Un officier de la BAC a dégoupillé la grenade, l'a balancée dans la foule et la cuillère de la grenade a explosé, a sauté dans l'œil de Monsieur Faustier. Monsieur Faustier, c'est Olivier Faustier qui est membre de quel parti déjà, je ne sais plus. Il est membre d'un parti politique. Et en fait, son œil, il l'a perdu à l'instant T où la cuillère est venue le heurter, quoi. Mais instantanément, quoi.
D'accord.
Et la grenade a été jetée à l'aveugle. J'étais présent, j'ai vu l'officier qui a jeté la grenade et il l'a jetée à l'aveugle. Il m'a décalé, il a jeté la grenade au sol et boum, elle a pété. Ouais. Ça a choqué tout le monde et c'est là que ça a créé une très forte tension entre les forces de l'ordre et les manifestants qui étaient présents ce jour-là alors que c'était pacifique. Et on n'a pas compris ce qui se passait.
Et il a porté plainte ou pas
Oui, il a saisi l'ONU, l'IGPN, je ne sais pas où ça en est personnellement, je ne sais pas où ça en est.
C'est long, c'est long.
C'est très long.
Très long.
Donc des fois, je prends de ses nouvelles, j'essaye de prendre de ses nouvelles, voir si ça va bien, mais ça va bien. Il essaye son combat, il le mène de son côté, en essayant de ne pas... De ne pas nous embêter trop avec ça, mais on l'aide quand même pour les témoignages, pour... tout ce qu'il y a à faire pour aider l'enquête, en gros. Et sinon, beaucoup de blessés flashball, beaucoup de blessés aux grenades de désencerclement, beaucoup de gaz, énormément de gaz. À chaque fois, ils n'hésitent pas sur les moyens. Et ils envoient. Après, c'est compréhensif, ils dispersent. Ils dispersent. Quand il y a des heures pour disperser les foules, c'est lacrymogène, quoi. Mais il y a eu beaucoup de répression forte sur Charleville. C'est ça qui nous désole un peu, parce qu'on n'est pas méchant. Certes, on est peut-être réfractaire dans l'âme, hein. C'est les Ardennais. Hein. C'est les Ardennais. Mais on n'est pas. Moi-même, je ne suis pas violent. Je garde mon calme, je suis pacifique, mais pas non violent. Si je prends un coup, je vais le rendre automatiquement si ce coup est gratuit. Faut dire ce qui est.
Oui, on va dire qu'ils ont essayé tout, en fait.
Ils ont essayé diverses techniques pour
les
nous...
Les amendes, on a eu la période d'amende pendant...
Ouais. C'est monté crescendo, en fait.
Tout à fait.
Je crois qu'ils sont pris individuellement. Ils ont ciblé des gens. Vous avez peut-être fait l'objet, les uns, unes et les autres, de ciblage.
Bien sûr.
Convocation au tribunal. J'ai eu des amendes à gogo. Mais bon, il y a des amendes que j'ai fait sauter. Hein. Vis-à-vis de la loi, ils n'étaient pas conformes. J'ai été convoqué au commissariat pour des faits que je n'ai pas commis, parce que c'était sur soupçon. Donc moi, je suis passé au tribunal, donc j'ai été renvoyé en correctionnel directement, puisque je n'avais pas lieu d'être ici, d'après le magistrat, d'après ma déposition au commissariat, qui ne fait que je n'ai fait que de relayer une information, et eux, ils me soupçonnent d'être organisateur de manifestations non déclarées au préalable.
Ouais. Ah, toi aussi ?
Ah oui. Donc après ça, ils ont vu que moi, je me défendais. Donc je repasse au tribunal le 16 septembre. Voilà. Donc pour gérer ce dossier-là, mon avocat le gère correctement. Donc ça va passer bien comme il faut. Mais à côté de ça, c'est la répression au niveau des amendes, les plaques d'immatriculation relevées, les arrestations, les contrôles d'identité abusifs. combat de chez moi. Les arrestations arbitraires.
Ils demandent ton nom, voilà. Ton adresse, alors qu'ils s'en battent chez toi.
Voilà.
Ils nous contrôlent, la BAC notamment nous contrôle assez régulièrement.
C'est une sorte de harcèlement. Oui, on peut appeler ça du harcèlement. Oui, c'est tout simplement du harcèlement. Quand on regarde, en essayant de nous dissuader de continuer notre combat, en gros.
Oui, c'est ça.
C'est ça le but. Hein.
Mais moi, je suis pas soumis. Je suis un électron, comme je dis à tout le monde depuis le début, je suis un électron libre. Donc,
la mise en place de l'arrêté préfectoral aussi tous les samedis, parce que à savoir que au début on avait toutes les rues qui étaient autorisées, mais maintenant on a une mise en place d'un arrêté préfectoral, donc qui chaque mercredi ou jeudi, je crois, pour le samedi, voilà. Et donc à savoir que la place de la préfecture, enfin en fait tout ce qui mène au centre-ville, tout ça c'est interdit, donc avec beaucoup d'amendes qui sont distribuées.
Tout le périmètre de la place du Cal.
Voilà. Donc, ça devient difficile, on va dire.
C'est bien compliqué.
Oui, ça devient compliqué pour manifester.
Le préfet Joly, je crois que c'est
Joly.
Oui, c'est Monsieur Pascal.
Le préfet Joly a sanctuarisé la ville. C'est lui qui a fait la. Enfin, c'est peut-être pas lui la première fois, mais en tout cas, il a repris ce qui se faisait peut-être en Bretagne ou à Nice. Et puis, le préfet de la Marne a fait la même chose. Oui. Et donc, après, ils ont commencé à inculper d'autres personnes pour soupçons d'organisation de manifestations.
Voilà.
Alors ça va nous faire le lien avec les arrestations qui ont eu lieu la semaine dernière à Charleville. Il y a deux semaines à Charleville. Mmh. Où là, le cortège, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais le cortège, on a été extrêmement limité, puisque à peine arrivé en bas de
l'avenue
de l'Arche, il y avait des checkpoints et on pouvait pas, on pouvait passer, mais on était fouillé. On arrivait donc devant la place de la mairie de Mézières. Et puis là, le cortège est parti. Et en fait, très très vite, on a été bloqué.
10-15 minutes après, ça s'est éclaté.
Voilà, c'est ça. Avec l'arrestation de plus de 10 personnes, avec leur banderole, quoi.
C'est ça.
Il y avait eu 10 personnes au premier. Après, il y a eu des arrestations tout le long de la journée parce que ça s'est transformé en chasse à l'homme.
C'est ça, oui.
C'est une chasse à l'homme, pure et dure. Ouais.
Hein. Exactement.
Ils nous ont repoussés, ils nous ont envoyés dans des endroits. Il y a eu divers groupes de séparés.
Des rues qui étaient en plus autorisées, mais où ils nous ont gazés.
Rues qui étaient autorisées, qui n'étaient pas dans l'interdiction.
Mais
parce que c'était une manifestation qui n'était pas déclarée, donc.
Ouais.
Une manifestation illégale.
Justement, par rapport à ça, j'ai appris de la part d'un avocat de Bordeaux qui est en train de se battre sur Bordeaux depuis début juin pour faire en sorte que ceux qui ont un PV de 135 euros pour avoir manifesté à un truc interdit, eh bien, ça puisse sauter. Et apparemment, il y arrive sur la base incroyable. Une manifestation étant non autorisée, étant, comment dire, non déclarée, ne peut pas être interdite.
Oui, vu qu'elle n'est pas déclarée, elle ne peut pas être interdite.
Elle ne peut pas être interdite.
Monsieur.
Ce qui fait que le PV de 135 euros n'a pas lieu d'être.
Monsieur.
Et ça marche, paraît-il. Il y a des trucs comme ça, des astuces comme ça qu'il faut vraiment connaître. Mm-hmm. Et alors, l'avocat invite les gens à refuser de payer l'amende, de faire des démarches avec une lettre type, d'ailleurs, qui est adapté au Bordelais, mais qui peut être adapté dans d'autres villes. Cette lettre, vous l'avez sur un site qui s'appelle CLAP33. CLAP33, c'est tout bête. CLAP33. Et là, vous avez, je vous donnerai, vous repartirez avec ça, avec la lettre type en particulier à envoyer à l'office du ministère public. Ça se fait à Bordeaux. Faut l'adapter, c'est tout. Par rapport à ce que je viens de vous dire là. C'est quand même intéressant d'avoir ce petit de démarche. Hein,
je suis justement en train de faire une contestation justement pour une amende et je cherchais... j'ai trouvé mon bonheur.
Donc tu ne seras pas né pour...
Voilà, exactement.
Je voulais vous parler d'un truc aussi. Excusez-moi de vous avoir coupé. Au niveau des forces de l'ordre, quand vous êtes en manifestation, déclarée ou pas déclarée, on nous reproche souvent de trop filmer les forces de l'ordre.
T'as le droit.
C'est ce que je sais. Je sais parce que je connais quand même les lois.
Les lois, ouais.
Et il y a eu beaucoup de répression par rapport à ça sur Charleville-Mézières. Et notamment un ami à nous, Thierry, qui s'est fait arrêter arbitrairement par un commandant, mais violemment en plus.
Très bien.
Qui l'avait dans le collimateur parce que Thierry, en fait, c'était notre petit reporter local, en gros, des manifestations. Donc, et ce commandant-là, en gros, plusieurs manifestations, dont la manifestation le jour où il s'est fait interpeller, monsieur Thierry. Peu de temps avant, 15-20 minutes avant, on l'entendait dire, il commence à nous embêter, à nous filmer, on n'est pas des bêtes de foire. Mais il faut savoir que si on ne les filme pas, à Charleville, hein, si on ne les filme pas, ça les pousse hein, à faire des violences.
Bien sûr, mais il faut
savoir qu'il n'y a pas de violence policière. Il n'y a que des policiers violents.
Que des policiers
voilà.
Belle figure de rhétorique hein, de la Macronie. Ouais.
Donc voilà. Donc au final, il a été arrêté arbitrairement parce que il saoulait le commandant à le filmer quasi constamment.
Ouais. Parce que il y a aussi un truc qu'il faut savoir du même type. Hein. Quand vous êtes arrêté, vous avez un portable. Bon, on le dit toujours aux gens qui vont dans les manifestations, ne prenez pas votre portable avec vous. Il y a des gros risques qu'on vous le pique et qu'en plus, on vous demande de l'ouvrir. Et justement, quand on vous demande de l'ouvrir, qu'on vous demande le code, eh bien, vous devez refuser de lui donner le code.
Bien sûr.
Et vous n'aurez pas de problème devant la justice si vous refusez
bien de sûr, donner le code. Refuser.
C'est privé.
C'est privé.
Tout à fait.
C'est notre droit.
Donc oui, à ce moment-là, sur Charleville-Mézières, j'ai sorti les 4 pages de circulaire qu'il y a dans les commissariats, qui interdit pas à filmer un policier, sauf que s'il fait partie d'un service spécifique comme le contre-espionnage ou l'antiterrorisme. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là où on n'a pas le droit de les filmer.
Ce qui n'est pas le cas.
Ou si ça ne porte pas atteinte à sa dignité.
Oui,
tout
voilà.
Simplement.
Oui.
Mais sinon, on peut filmer des scènes de contrôle d'identité, des scènes d'arrestation, des scènes de violence.
Passage, ouais.
Des scènes de violence comme a subi notre ami belge le 22 juin. Pour un simple contrôle, et ils l'ont pris un peu violemment. Il s'est rebellé et de là est parti un tabassage. C'est le cas de le dire, c'est un tabassage. Hein, la vidéo circule sur le net. On voit clairement que c'est un tabassage en présence du commandant et du commissaire.
Ouais. C'était où ça ?
Sur le parking du Intermarché à la Ronde
Couture. À la Ronde Couture, c'est la BAC qui l'arrête. Ils commencent à lui donner des coups de pied aux chevilles. Et ils le font vaciller. Et après, chacun le... Mais c'est vraiment la meute, quoi.
Ouais. C'est un monsieur qui a en plus des soucis de santé, ouais. qui porte des appareils auditifs.
D'ailleurs, il y a une proche de lui qui est là, qui dit arrêtez, il a des appareils, arrêtez, il a des appareils. C'est un vrai lynchage, quoi.
On entend encore ce fameux... ce fameux commandant dire vous avez qu'à pas être sur les manifestations si vous êtes handicapé
arrêtez
de nous filmer encore une fois
il n'aime pas cette phrase là
ouais,
donc mais si on n'apporte pas des preuves de policiers qui sont on va dire énervés c'est porte ouverte à la violence hein.
Exactement.
Porte ouverte à la violence hein. Donc on est obligé de faire des vidéos, des photos, des... Ça marche comme ça sur Charleville, sinon la répression serait beaucoup plus violente que ce qu'elle n'est aujourd'hui.
Ouais.
Je vous prie de croire.
Alors, il y a 2 semaines, il y a eu aussi l'arrestation. Justement, on a parlé lorsque la banderole a été saisie. J'en ai parlé longuement la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y avait une banderole qui portait le slogan « Ne vivons plus comme des esclaves ». Et elle était tenue par au moins une dizaine de personnes.
Oui.
Et parmi ces personnes, il y a Omar qui a été arrêté.
Oui, monsieur Menasser, oui.
Voilà. Et qui a été copieusement tabassé.
Oui.
Est-ce que vous pouvez raconter un peu ça ?
J'ai pas vu la scène, moi, personnellement, parce que j'étais un peu en retrait derrière, puisque j'étais en train de discuter un peu avec Dabia de la situation présente. En gros, et des craintes à avoir pour la suite de la manifestation en elle-même, parce que c'était très tendu. Et quand il y a eu la charge qui a été sonnée, Omar a disparu de mon champ de vision, alors que je suis quasi tout le temps à proximité de lui, au cas où. Parce qu'il faut savoir que Omar a des problèmes de santé, et que... si on lui porte des coups, il peut faire des hémorragies internes et ça peut, ça peut être grave pour sa santé. Donc je préfère toujours être à proximité de lui au cas où s'il a besoin. Vous voyez, et j'ai pas vu Omar se faire interpeller et j'ai pas vu la scène.
Ça a été très très vite, hein, ça vraiment a été très vite. Je l'ai venait d'arriver, moi je faisais un live.
Je l'ai vu par rapport aux vidéos, moi après, par la suite.
Ouais, nous on a dû refouler, on a été refoulé à ce moment-là et on a loupé toute une partie de la scène. Mais en tout cas, il a été arrêté. Il faut signaler que c'était les CRS qui étaient aux opérations et qu'il y a un commissaire, je crois, qui a exhorté les CRS d'arrêter le tabassage parce qu'il le mettait en danger.
Le commissaire du commissariat de Charleville est intervenu pour qu'ils arrêtent leur matraquage, comme ils le font habituellement.
Donc ça, c'est quand même, pour une fois qu'il y a un juste ce qui est rare. Mais ensuite, il a été inculpé. C'est-à-dire, dans son dossier à charge, il a été soupçonné et inculpé de être l'instigateur de cette manifestation.
D'après les médias, oui, j'ai vu ça, mais non, c'est pas un instigateur, c'est pas un leader.
Absolument pas.
S'il n'y a pas de leader dans le mouvement.
En fait, ça, c'est un montage.
C'est un montage. C'est l'Ardenné.
Voilà.
C'est l'Ardenné.
C'est la presse locale dans toute sa splendeur qui manipule à sa sauce l'information, en gros.
En 68, on disait l'ORTF vous parle tous les soirs à 20h, mais aujourd'hui, c'est soit l'Ardenné, soit BFM TV, soit l'Union. Vous parle H24, quoi. Et vous raconte.
Ils doivent être de la même famille, les trois médias, je pense.
Voilà.
Et donc, il y a une bonne nouvelle pour Omar. On va commencer par les bonnes nouvelles.
Bah oui, il a été entendu, c'est pour.
Des faits antérieurs.
Pour des faits antérieurs, un peu similaires aux miens, qui étaient organisateurs de manifestations non déclarées. Donc, il a été convoqué au commissariat. Donc, il est passé au tribunal la semaine dernière. On a attendu toute la journée le jugement a été fait à 19h30. On est sorti à 20h un peu passé. Mais le délibéré a été repoussé à aujourd'hui.
D'accord.
Donc, le délibéré, on y a été tout à l'heure. Et ça a été vite, hein. ça a pris 30 minutes en gros. Hein. Et à la surprise générale, Omar a été relaxé de tous les faits qui lui a été reprochés. Il était acquitté en gros.
Un beau cadeau pour son anniversaire.
Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà.
Donc on lui fait un gros bisou pour son anniversaire.
Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu être présent aujourd'hui, puisqu'il préférait rester en famille.
Oui, bien sûr, c'est
compréhensible. Tout à fait.
Très décidément.
Et puis il est encore un peu en convalescence, hein, vu les coups qu'il a subis et les examens médicaux qu'il a fait. C'était un peu compliqué. Donc voilà.
À signaler quand même, qu'il faut quand même le dire, tu as des gens qui se font tabasser, et si jamais ils se protègent,
c'est encore pire.
Ils font outrage.
On appelle ça de la rébellion. Mon mari en a fait les frais samedi. Voilà.
Ben on va en parler justement. On va en parler parce qu'en fait, l'état de siège qui a été organisé et mis en œuvre à Charleville-Mézières a été en quelque sorte reproduit par le préfet Marnay, qui a pris un arrêté en lien avec la mairie de Reims et qui ont fait de ce centre-ville un sanctuaire, au point que dès que les gens arrivaient sur la place Boulingrin, lieu habituel de rassemblement, il y avait des contrôles très importants, voire des arrestations. Et je crois qu'il n'y a pas eu de rassemblement proprement dit Boulingrin. Hein, il n'y a eu plus de 15 personnes.
Nous, on arrivait vers midi, donc on s'est stationné autour en fait du parking Boulingrin qui était vraiment
ceinturé,
inaccessible,
totalement.
Donc je me suis garée autour du parking. On a essayé d'aller en centre-ville, mais c'était vraiment très difficile. Donc avec un dispositif hors normes, dont notamment 40 camions CRS, des canons à eau, etc. Donc on a réussi quand même à aller en centre-ville. On a repéré pas mal de personnes sans signes distinctifs, mais on voyait qu'ils étaient comme nous, qui cherchaient
ça se voit dans le regard.
Un point, un point de rassemblement. Ouais, donc, dans un premier temps, on s'est rassemblés autour de la fontaine sur la place d'Erlon. Et bon, des gens comprenaient, donc ils venaient. Et, ensuite, on s'est mis, lorsqu'on.
Un petit peu à l'écart.
Voilà, on s'est mis un petit peu à l'écart parce que lorsqu'on était sur la fontaine, beaucoup de véhicules de police passaient. Et, bon, on craignait encore un contrôle. Et lorsqu'on s'est mis donc sur le coin d'un magasin de chaussures à proximité, une descente de police d'un seul coup.
Et... Ouais, alors là, c'était c'est le lieu de l'ancienne gare, en fait, l'ancienne gare routière, tout près du Gaulois.
Moi, après, je connais pas Reims.
Alors, on était au coin du magasin André, le magasin de chaussures.
D'accord.
Voilà, on était juste là, en
toi,
fait.
Toi, tu étais là, donc j'étais à ce moment-là, avec le groupe.
On était une trentaine, à peu près, une trentaine de Carolo, de Marnet, etc.
Ouais.
Enfin, de...
Puis quand les avis arrivaient, on commençait à repartir tout doucement. Et moi, avec un ami, on a pris un passage. Après, je connais pas les noms, je suis pas de Reims. C'était une galerie.
Oui.
On est passé dedans et là, je sais qu'il y a la police qui est arrivée d'un côté. Et après, il y a une autre patrouille qui est arrivée de l'autre côté.
Ouais.
Ils nous ont pris là, ils nous ont demandé de nous fouiller. Et de là, bah, c'est tout. Bon, on a obéi. Et bon, moi, je commence à sortir mes objets de ma première poche. Il y a un policier qui a dit comme ça, vous avez quelque chose de dangereux dans votre poche. Il croyait certainement que j'avais soit une arme ou soit je peux pas savoir parce que pour lui c'était voilà. Donc après ils m'ont sauté à 6 ou 7 dessus, ils ont essayé de me mettre des croche-pieds, j'ai résisté à ce moment là mm-hmm. Et de là bon, il y en a un qui arrivait à me faire tomber et quand j'étais par terre ils m'ont mis les menottes et de là il y a un policier, je connais vaguement son nom, il a commencé à m'étrangler par devant, non par derrière, donc c'était fait exprès, à plusieurs reprises, il a voulu me tabasser. Mais manque de bol pour lui, il y a eu des témoins. Donc mm-hmm. il a pas pu faire quoi que ce soit. Et de là, ben, il m'a relevé, il était à plusieurs, il continuait, et ils m'ont sauté, enfin lui, il y a que cette personne-là, de toute façon, après, qui j'en ai, il m'a sauté sur la main, avec son protège... avec son protège
tibia.
Voilà, pour son protège tibia, à genoux. Il m'a sauté sur la main pour essayer de me péter la main. Et puis, il me dit quoi en plus de ça ? Oups, désolé. Alors, comme si qu'il n'avait rien fait, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et de là, bah, c'est tout. Après, voilà. Et puis, les menottes qui me faisaient mal, qu'ils avaient serré à bloc, je lui ai dit, s'il vous plaît, voilà, vous me avez serré les menottes à bloc. Il a dit, oh, c'est pas grave, on va ça plus tard. Et oui, mais ça fait mal. Mais non, on verra ça plus tard, en passant, on n'en est pas là. Donc, il me laissait comme ça, avec une souffrance abominable. Mmh. Et là, du coup, je me retrouvais avec des bleus partout, jusqu'au cou. Et après, on a fini au fond de la galerie. Et là, ils m'ont mis par terre. Et il y a un des commandants à eux, qui devait être plus au-dessus de la BAC, qui lui a dit de se calmer. Parce qu'apparemment, il allait comme assez fort avec moi. Il lui a dit de se calmer. Et vu que l'autre, il voulait pas se calmer envers moi, ben, le commandant de la BAC, il lui a dit de se débrouiller, et puis il est parti. Et puis là, il continue. De toute façon, à chaque mouvement que je faisais, soit il me tordait l'épaule, soit il me tordait le bras. Il n'arrêtait pas, quoi.
Et donc, violence, un policier ouais, violent, ouais, quoi. Ouais, c'est vraiment
et d'après la police, c'est moi qui endors.
Oui, donc ils t'ont accusé de rébellion.
De rébellion et violence envers la police.
D'avoir mis un coup de coude, notamment à ce policier.
Agression
en
sur
fait,
un officier de police, quoi.
Donc tu as fait la garde à vue.
J'ai fait 48 heures de garde à vue. Après, bon, là, je suis passé au tribunal aujourd'hui. Après, je ne sais pas la suite ce que j'aurai, mais je sais que je repasse au tribunal au mois d'octobre, le 8 octobre.
Et à savoir
pour coup sur policier. Voilà.
Participation à un mouvement en vue de violence sur personne et
pour cassage,
en vue de casse. Voilà.
Stipule bien que tu es soumis à un contrôle judiciaire quand même.
Ouais, de toute façon,
tu dois venir.
Il y a des témoins qui vont témoigner. Et puis
oui,
voilà.
Bien sûr.
Moi, j'ai des photos.
Il faut venir témoigner.
J'ai mis
vos témoignages et tout.
Dès le samedi soir, j'ai mis une annonce afin de récolter. Des témoignages, des vidéos, des photos, parce que je sais qu'il y a une personne qui a filmé, d'autres qui ont pris des photos. Donc une personne m'a envoyé des photos dont on voit mon mari. Voit mon mari donc au sol avec tous les policiers sur lui. Donc on voit bien dans les gestes en fait qu'il a subi des violences. Et j'attends justement la personne en fait qui pourrait m'envoyer la vidéo afin de pouvoir voilà, plaider. Voilà.
Oui, c'est important ça, d'envoyer des témoignages. C'est la base de la défense, de notre défense, quoi. Et je voulais signaler que dans le dispositif pour créer la tension qui est à l'instauration du préfet, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit aux commerçants du marché, du centre-ville, du marché de Boulingrin, pardon, de plier bagages à partir de midi. Donc en fait, de cette manière, ils pensaient monter les commerçants contre une éventuelle manifestation des gilets jaunes. Or, en fait, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. Peut-être à des témoignages contraires, Denis, mais moi, les témoignages que j'ai, c'est que les gens, ils étaient vraiment remontés. Ils ne supportaient pas qu'on impose comme ça, on leur impose de plier dès midi, et faire ce blackout autour de la place, puisque les gens qui venaient au marché étaient interdits de rentrer à partir de midi. Et donc voilà, ça allait à sens unique, quoi. Donc tout ça fait partie d'une mise en place de la mairie, de la préfecture, et je dirais ton arrestation ou les arrestations multiples, parce que vous êtes arrêté à la fontaine. Après, il y a un mouvement qui se déclenche vers le stade, en se disant qu'on pourrait peut-être manifester à partir du stade. Et en fait, à partir du stade, il faut signaler que les CRS étaient au centre-ville. Au stade, c'était les gardes mobiles. Il y avait plusieurs compagnies. Et là, il y avait des patrouilles. Les patrouilles
énormément,
circulaient dans le parc Léo Lagrange. Moi, j'ai contrôlé n'importe quoi. J'ai croisé 3-4 patrouilles. Et ensuite, je me suis rendu compte que ces patrouilles faisait la navette jusqu'en bas du quartier Wilson. Et il tournait près du fameux lycée dont j'ai oublié le nom, Denis. Le grand lycée, là, le nouveau lycée.
Roosevelt ?
Non. On est à Wilson, là. On est dans le boulevard Wilson.
Chagall,
voilà. Chagall. Merci, Camille. Et donc, il y avait des patrouilles qui circulaient. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui ne leur revenait pas, ils les arrêtaient. C'est d'ailleurs le cas d'une personne qui était en voiture, qui a été contrôlée sur un parking. Alors lui, il avait le malheur d'avoir une boîte à outils pour la pêche et un marteau. Et hop, on l'a emmené en garde à vue parce qu'il avait un marteau dans sa voiture. Non mais...
On marche sur la tête.
Il y a des citoyens lambda qui ne sont pas manifestants, qui se sont retrouvés en garde à vue.
Donc, ceci pour dire que dans la propagande, parce qu'il s'agit de ça... Hein, la propagande de l'Union, mais quand c'est pas l'Union, c'est l'Ardennais. L'ORTF vous parle, ou BFM TV vous parle, c'est de dire qu'ils ont fait 600 contrôles, pas loin de 600 contrôles.
C'est ça.
Donc, la question c'est de savoir, est-ce que c'était 600 manifestants ou présumés manifestants ?
Alors que nous, manifestants, tout ça c'est du montage, quoi. On a passé les barrages de police, ayant un autocollant gilet jaune derrière ma voiture, ils ne m'ont pas du tout contrôlé. Mm-hmm. Donc c'était vraiment.
Ils ont dit qu'on arrive sur Reims.
Voilà, même les arrestations, c'était des arrestations arbitraires. Je veux dire, lorsque mon mari s'est fait arrêter. J'étais pas avec lui à ce moment-là parce qu'on s'était dispersé. On m'a prévenu que mon mari avait été arrêté. Je suis revenue voir mon mari. Ils m'ont posé la question, évidemment, si j'étais manifestante, à laquelle j'ai répondu oui, la vérité. Donc j'étais venue pour manifester. Ils auraient pu également m'arrêter. Enfin, je veux dire, voilà, pourquoi mon mari et pas moi, j'ai envie de dire. Alors que.
Ah, alors t'avais une petite explication tout à l'heure quand on préparait l'émission là-dessus. Sur leur stratégie à eux, judiciaire cette fois, on met un pied dans le judiciaire et dans leur protocole judiciaire, particulièrement, criminalisant. C'est qu'en fait, ils s'adressent aux plus, ils essayent de cibler les plus précaires d'entre
voilà,
nous.
Voilà, c'est ça.
Du mouvement.
C'est ça.
Les plus fragiles du mouvement.
C'est ça.
Et toi, ils ont décelé parce qu'ils t'ont questionné, raconte un peu.
Voilà,
ça, c'est
donc
quand même
en fait, lorsque je suis arrivée, ils m'ont demandé qui j'étais. Donc j'ai dit que j'étais donc son épouse. Et ensuite, ils m'ont dit, vous travaillez, vous, madame ? Donc je leur ai dit oui, évidemment, oui, je travaille. Je suis auxiliaire puériculture parentale. Ah d'accord. Enfin voilà, ça les a.
Ça les a calmés.
Calmés, oui. En fait. En gros. Mais j'ai trouvé ça. Enfin, c'est la discrimination. Qu'est-ce enfin, que ça c'est, avoir, oui, bah, pardon, voilà, quel est le rapport en fait. Je suis là, vous me demandez qui je suis, évidemment, oui, je suis son épouse. Ça, la question avait lieu d'être, mais si je travaille, enfin, je veux dire, même si j'étais au chômage, enfin, c'est une assurance que j'ai cotisée, ouais. Même si j'étais, enfin, peu importe ma situation, j'ai le droit de manifester. Je vois vraiment pas le rapport avec la situation. Donc oui, j'ai trouvé cette question-là déplacée.
Et alors, sauf si on a sans doute encore à parler de personnes qui ont été arrêtées, il y avait quelqu'un qui était de Toulouse, enfin qui est un, disons, quelqu'un qui a, oui, qui a été arrêté, lui, parce qu'il avait un foulard dans son sac.
C'est ça, un passe-montagne en faute.
Un passe-montagne, ouais. Donc lui, il est au même tarif que toi, c'est-à-dire il est sous contrôle judiciaire pendant X mois.
Je ne sais pas ce qu'il a eu.
Bah, il m'a dit, moi, mais contrôle judiciaire jusqu'en octobre.
Je pense qu'ils ont eu la même chose.
Et interdiction de fréquenter la ville et le mouvement Gilets jaunes jusqu'à son extinction.
C'est ça.
Ah, ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles jusqu'à son extinction.
Moi, il n'y a que rien, parce que je n'ai pas le droit d'aller du tout.
D'accord.
Mais normalement, je ne devrais même pas y aller. Bon.
Je ne devrais même pas être présent avec parmi nous.
Normalement, non.
Donc, un aspect intéressant de cette stratégie qu'il faut absolument dénoncer, c'est cette fois-ci. La stratégie de comparution immédiate. Alors ce matin, parce qu'il y avait aujourd'hui, il y avait 9 personnes qui passaient en tout, ou 7 ou 9. Et ce matin, c'était les plaidés coupables. Hein. On en a parlé un petit peu dernièrement. Oui. Le plaidé coupable, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune défense possible.
Voilà, t'arrives, tu plaides coupable, tu subis.
C'est ça.
Et t'as un rabais même.
Voilà,
C'est-à-dire que t'as une grosse amende et si tu payes tout de suite, t'as un rabais. Voilà. Quoi. C'est 20%, ça, la justice. 20%.
C'est les soldes en ce moment.
Ouais, c'est les soldes, ouais, c'est ça. Et alors, les comparutions immédiates, c'est pas. C'est pareil, là, ça se passait à huis clos.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'audience.
Non.
Absolument. Non.
Donc, en fait, nous étions. Soit dehors, soit sur les bancs à l'intérieur.
Voilà, dans la salle des pas perdus.
Mais.
Ah, je peux, effectivement, oui, c'est, elle porte bien son nom.
Alors, soit ils ont peur, je crois pense. Que les procureurs, oui, ils ont peur, les juges, parce qu'il faut rappeler aussi que dans cette bonne ville de Reims, il y a des gens qui ont été condamnés, le procureur avait demandé 12 mois, et la juge, elle, a surenchéri à 18 mois. Donc, il y a deux personnes aujourd'hui. D'accord. Qui sont incarcérés pour 18 mois.
Oh là là.
Alors qu'il y a
un couvreur, quelqu'un qui est
12 mois
et une autre personne dont je sais pas l'activité. Voilà.
Ils essayent d'exterminer de toute façon le mouvement à la chaîne. C'est pour ça qu'ils font des arrestations arbitraires. C'est pour ça qu'ils font des comparutions immédiates. C'est pour ça qu'ils ils sanctionnent pour montrer l'exemple, en fait, pour nous dissuader, on va dire, de continuer le mouvement. Ils essayent toutes les cartes, on va dire, que ce soit des amendes, des arrestations.
Ça dissuade pas quand on
non, regarde. Absolument pas. Moi, ça me remonte. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été aussi motivée que depuis l'arrestation de mon mari.
Ça, je crois qu'on est plus renforcé.
Ouais. On lâche rien,
ça
malgré
soude.
Tout.
Ça rend pas haineux, mais ça.
Bah, la colère s'auto-alimente.
La détermination.
Voilà, c'est
ça. On n'est plus dans le même état d'esprit.
On est déjà déterminé depuis le départ, sinon on serait pas là. Ça fait 7 mois qu'on est là, on n'a rien lâché.
Mais la colère s'est auto-alimentée de toute façon, semaine après semaine. Je suis plus. Je suis pas dans l'esprit non plus Black Bloc, mais voilà, je suis pas non plus, je suis plus dans le même esprit qu'au 17 novembre, sans pour autant être violente. Mais la colère s'est auto-alimentée, c'est de toute façon, voilà, avec tout ce qu'on a subi, que ce soit les répressions, que ce soit les violences, on a subi trop de choses en fait pour rester.
On peut même plus dire si c'est une justice à deux vitesses,
on
puisque
sait pas.
Je dirais que c'est une boîte 5 en fait.
C'est multiples vitesses. Oui.
Voilà.
C'est 5, 6, 7 vitesses.
C'est frustrant
vitesses.
À force. Hein. On n'a plus
pas,
confiance.
Ils manipulent comme ils veulent.
Mais ça fait des mois qu'on se pose la question. Qui jugera les juges?
Voilà.
Qui jugera les juges et qui jugera ces exactions judiciaires? Parce qu'il s'agit bien d'exactions judiciaires.
Oui, bien sûr.
C'est de la déprédation judiciaire. Quoi.
Mais même au niveau des forces de l'ordre. Hein. Il y en a pas mal qui commencent à être jugés pour leurs faits, pour leur... C'est le bouclier du roi, c'est tout en bas qu'on vient taper. C'est pas Monsieur Castaner qu'on va aller.
Ouais, justement, je vais vous parler. Est-ce que vous connaissez ce mec?
Ah oui, c'est important
le
ça.
Patron de l'antiterrorisme ardennais.
Ah, on en a entendu parler.
Vous entendu parler.
On le connaît pas.
Non,
on
pas personnellement. Pas son
nom. Alors celui-là, on n'a pas le droit de le filmer. Hein.
Voilà. Celui-là, on n'a pas le droit de filmer. Alors, on ne connaît pas son nom. Donc, à mon avis, l'Ardennais n'a pas mis son nom et prénom.
N'a pas mis son nom, mais...
Camille, Denis, il faut que tu fasses là, faut que tu accélères, parce que Camille a l'air désespéré derrière son hublot.
Il paraît...
De haut son micro.
Ah, devant ton micro.
Bon, d'accord. Alors, paraît-il qu'il était connu au niveau des Gilets jaunes, puisqu'il était dans certains cortèges de manifestants.
D'accord.
Paraît-il, hein. Mais de toute façon, c'était avant son arrestation, qui date du mois de mai.
C'est tout récent. Hein, oui.
C'est tout récent.
Oui.
En fait, il s'agit d'un pédophile, tout simplement.
Oui. Hein. Il est accusé de viol.
C'est ça,
sur adolescent
qui
détenait 3 500 images à caractère pédopornographique.
Et pas un seul gilet jaune.
Il était dans les cortèges des gilets jaunes, je ne pense pas connaître.
Oui, puis il est accusé de viol aussi.
Il était dans le cortège en tant que provocateur, hein. C'est-à-dire qu'il venait dans les manifs.
Il était agitateur.
Agitateur.
D'accord.
Il était dans les manifs pour foutre le bordel. Quoi.
Oui, déclencher en quelque sorte.
Tu l'as peut-être sur tes bandes.
Bien sûr. Donc en RG alors, en fait.
Bien sûr. Mais vous savez qu'on en a décelé une paire. On a décelé une paire de personnes.
Le chef de la DGSI, c'est le commandant de la DGSI, Direction générale
de la sécurité
intérieure.
Donc ex-RG, c'était le chef.
D'accord, c'était quoi,
donc il était parmi nous.
Oui, vous le connaissez certainement. Alors on va s'équiter, je crois, d'après ce que me fait signe notre camarade technicien.
Bah, merci beaucoup en tout cas.
Bah, merci
à
vous.
On vous remercie de nous avoir accueillis.
Ah, faut écouter ça.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'était les Régors. Chaque semaine, sur l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local à Saint-Girons, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.